non venire con sacchetti parole fuori, all'inizio del scritto. E nous avons, pendant quelques minutes, médité sur ces paroles qui sont des exhortations de Paul. Vous savez que Paul fondait en ses voyages des églises dans différentes villes de l'Empire romain. Et cette église de Philippes, au nord de la Grèce, Paul l'avait fondée dans des circonstances assez difficiles, mais c'est resté pour lui une de ses églises préférées, si je peux vous permettre ce genre d'expression. Paul écrivait ensuite des lettres pour encourager les chrétiens des églises pour répondre à des questions qui lui posaient. À défaut d'être présent, il écrivait ces choses et comme ça il pouvait les lire et les méditer. Vous savez que nous vivons dans un monde qui est en proie à différents problèmes. Nous vivons dans un monde, par exemple, qui est en proie à la déprime, à la morosité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ce que nous entendons et voyons, ce n'est pas l'enthousiasme, la joie qui déborde de tous les membres de la société. Nous vivons aussi dans un monde qui est en proie à la violence. Nous vivons dans un monde qui est en proie à l'agitation, au désordre, à l'inquiétude de toutes sortes. Et nous vivons dans un monde qui est en proie aussi à des pensées de plus en plus mauvaises, de plus en plus incontrôlées. Paul était conscient de ça déjà à son époque, puisqu'il écrivait à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des jours, des temps difficiles. Et le mot difficile dans ce texte veut dire des moments, des temps lourds à supporter, des temps pénibles. Et nous voyons aujourd'hui que nous allons directement vers cela. Alors les temps sont difficiles, mais ils l'étaient quand Paul a écrit ses lignes, même si dans les paroles de Paul, on peut voir un certain aspect prophétique pour les temps qu'aujourd'hui nous vivons. Ce que nous remarquons dans ces quelques versets, c'est que Paul, en quelque sorte, apporte une réponse pour le chrétien à cette problématique que nous venons de décrire rapidement. À ceux qui peuvent être tentés de sombrer dans la déprime comme le monde, Paul dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». À ceux qui peuvent être pris par la peur de la violence qui se déchaîne, Paul dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes ». À ceux qui sont inquiets, Paul dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et à ceux qui sont affligés de voir les pensées incontrôlées d'un certain nombre d'hommes, Paul dit que toutes les choses bonnes, vertueuses, agréables, pures, soient l'objet de vos pensées. Donc, c'est une contre-attaque, quelque part, que Paul propose à tous les croyants. Mais, avant d'aller plus loin, il me faut m'arrêter à une petite parole qui est au milieu de tout cela. On peut se demander pourquoi elle est là. Paul ne la développe pas, et tant est si bien que je l'ai choisi comme titre de ce message, c'est cette parole du verset 5, « Le Seigneur est proche ». Ce n'est pas une exhortation, c'est un fait en soi. « Le Seigneur est proche », dit l'apôtre Paul. « Le Seigneur est proche », ça peut vouloir dire deux choses. « Le Seigneur est proche dans le temps », et là nous faisons référence à toutes ces paroles de Jésus et des apôtres qui nous disent que le Seigneur reviendra. Et aujourd'hui nous voyons, d'après un certain nombre de textes bibliques, que le retour du Seigneur est proche. Donc dans ce sens, le Seigneur est proche. Mais je crois que cela veut aussi dire que le Seigneur est proche, entre parenthèses, de nous. Parce que toute la Bible témoigne de cette proximité que Dieu veut avec son Église, avec ses enfants. Alors, si le Seigneur est proche dans le temps, parce qu'il va bientôt revenir, et s'il est déjà proche de nous, parce que, comme le dit sa parole, il vit non seulement à côté de nous, Jésus a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde », mais il a dit aussi qu'il s'appelait Emmanuel, il est dit aussi qu'il s'appelle Emmanuel, qui veut dire
Dieu avec nous, ou Dieu est avec nous. Donc, qu'il soit proche de nous dans un sens ou dans l'autre, Paul dit ses exhortations, Paul donne ses exhortations qu'il donne. Donc, si le Seigneur est proche, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur parce qu'il est proche. La réjouissance, la joie est un thème qui traverse cette petite épître aux Philippiens, puisque au chapitre 1, Paul dit « Je prie avec joie ». Au chapitre 2, il dit « Vous aussi, réjouissez-vous ». Au chapitre 3, il dit « Mes frères, sous-entendu, et mes sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et ici, au chapitre 4, verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». S'il avait dit simplement « Réjouissez-vous », les Philippiens auraient pu lui dire « Mais Paul, comment peut-on faire pour se réjouir quand tout va mal ? Comment peut-on faire ?» Et Paul peut-être leur aurait rappelé son expérience dans leur ville. Lorsqu'il est venu prêcher pour la première fois l'évangile dans la ville de Philippe, Paul a connu, c'est le moins qu'on puisse dire, a connu bien des déboires, puisque pour avoir prêché l'évangile avec toutes les conséquences que cela a eues, Paul et son ami Silas, qui l'accompagnait dans ses voyages, se sont retrouvés en prison après avoir été fouettés et avoir été roués de coups, comme le dit le texte de Actes, chapitre 16, versets 16 à 34. Ce texte nous raconte comment Paul et Silas ont été jetés en prison, mais il nous dit aussi quelque chose. Alors qu'ils étaient en prison, perclus de douleur, au milieu de la nuit, se sont mis à chanter, à louer Dieu. Et c'est bien la preuve que, même dans les difficultés, on peut apprendre à louer Dieu et à être joyeux. On n'est pas alors joyeux, comme Paul et Silas ne l'étaient pas, parce qu'on a mal. En général, quand on a mal, soit on gémit, soit on se plaint, soit on crie, soit on pleure, soit on demande de l'aide, ou au moins des soins. Mais là, dans leur prison, avec toutes les douleurs qu'ils pouvaient ressentir, avec les bleus ou même les traces de sang qu'ils avaient sur le corps, eh bien, ils se sont mis à louer Dieu et à chanter. Pourquoi cela ? Je crois qu'il n'y a qu'une seule explication. La Bible dit que lorsque nous découvrons Dieu, lorsque nous rencontrons Dieu, lorsque nous faisons avec lui une expérience que nous appelons de conversion, la Bible dit que nous devenons une nouvelle créature. Nous devenons un homme ou une femme tout nouveau, toute nouvelle. Parce que l'Esprit de Dieu, dit Paul, vient habiter en nous, réellement, et vient nous aider à vivre une vie nouvelle, avec une capacité nouvelle. Et parmi cette capacité, au sein de cette capacité nouvelle, il y a la capacité d'être joyeux en tout temps. Pourquoi ? Parce que Paul dit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 22, que la joie est un fruit de l'Esprit qui vit en nous. L'Esprit, comme un arbre, porte des fruits. C'est-à-dire que lorsqu'il vient habiter en nous, il va développer en nous un certain nombre de qualités que nous n'avions peut-être pas avant, en général, non, ou alors que nous avions, mais de manière assez réduite, assez limitée. Et donc, de même que nous pouvons aimer d'une manière toute nouvelle, de même que nous pouvons être remplis de foi, de même que nous pouvons avoir de la bonté envers les autres, eh bien, Dieu nous donne la capacité d'être joyeux en toutes circonstances. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est bien ce que nous disons. Donc nous sommes capables de vivre différemment de ce que nous vivions avant. Quelqu'un a dit que notre joie ne dépend pas de notre situation, quelle qu'elle soit, mais de notre relation avec Dieu. Ce ne sont pas les événements extérieurs, même si certains d'entre eux parfois nous donnent de la joie, mais ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous donnent la joie de Dieu. mais c'est la relation que nous entretenons avec Dieu, la communion que nous avons avec Dieu. Il est donc possible d'être dans la joie, même si nous sommes dans la plus grande adversité. Et cela, c'est le miracle de Dieu. Paul continue et dit, si donc le Seigneur est proche, verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors, nous pouvons sursauter quand nous entendons ce mot « douceur ». En général, on a plutôt tendance à attribuer la douceur aux femmes qu'aux hommes, même s'il arrive d'entendre dire que tel homme, oh, c'est un homme d'une grande douceur. Mais on a tendance à penser, généralement, même s'il y a des femmes, qu'ils sont tous sauf douces. Il y en a de toutes sortes, comme il y a toutes sortes d'hommes. Mais ici, il n'est pas question de cette douceur-là. Il est question d'une bonne disposition du cœur. Jésus, par exemple, a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Cette douceur, c'est plutôt le contraire de la violence. Jésus, d'ailleurs, ne s'impose pas. Jésus ne s'est jamais imposé. Pendant des siècles, certaines églises ont voulu imposer leur religion, chrétienne ou autre, et cela se passe encore aujourd'hui, par la force. Jésus n'a jamais fait cela. Jésus n'a jamais forcé quiconque à se convertir.
Jésus est un homme doux, humble de cœur, dans le sens où il ne s'imposait pas. Il ne faisait pas usage de violence, de force physique pour imposer ce qu'il disait. Un autre exemple, c'est celui de Moïse. Moïse, dans le chapitre 13, verset 2, nous parlons 12, verset 3 du livre des Nombres, il nous est dit que Moïse a vécu un petit épisode un petit peu douloureux, je crois très douloureux même. À un certain moment, vous savez que quand Moïse était le chef du peuple d'Israël, il a conduit pendant 40 ans dans le désert des gens qui dirigent dans des conditions favorables, plus agréables, plus confortables. Lui, il a exercé la direction de leadership, comme aujourd'hui, en bon français. Il a exercé le leadership pendant 40 ans, mais dans un désert. Et quand on lit les grands livres de la Bible à partir de là,
c'était un homme bienveillant, un homme qui avait de bonnes dispositions, et c'est le sens du mot « douceur » que Paul emploie ici. Le mot « douceur » veut dire apte, capable d'être bienveillant, être toujours bien disposé envers les gens. Dans un monde qui était loin, aussi bien pour Moïse que pour Paul, d'être un monde facile, aussi bien que pour l'époque où Jésus vivait sur la terre, le pays d'Israël était gouverné par le gouvernement de Rome, de l'Empire romain, qui était un empire qui exerçait un pouvoir très fort, très puissant, parfois même violent. Maintenant, si le Seigneur est proche, Paul ajoute encore ceci, « Ne vous inquiétez de rien », verset 6. « Ne vous inquiétez de rien ». Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que de s'inquiéter. En fait, quel que soit notre âge ici cet après-midi, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, Qui ne s'est jamais inquiété dans sa vie? J'ai remarqué que même les enfants qui ont quelques années seulement commencent déjà à s'inquiéter. Ça se manifeste parfois sous forme d'impatience. Ça se manifeste parfois la nuit sous forme de cauchemar ou je ne sais quoi. Mais l'être humain vit l'inquiétude comme quelque chose de naturel. Alors quand Paul, à la suite de Jésus, dit « ne vous inquiétez de rien », on pourrait se demander « mais pourquoi dire cela ?» D'abord, il dit cela parce que les gens s'inquiètent. Il a dit ça aux Philippiens parce que certainement il avait entendu dire que les Philippiens s'inquiétaient. Quand Jésus dit à quelqu'un « ne crains pas », c'est parce qu'il a détecté chez cette personne une certaine crainte. Quand Dieu, par exemple, a dit à Josué à la mort de Moïse, auquel il était appelé à succéder, « ne crains pas », c'est parce que Josué craignait. Il se demandait, par exemple, sans doute, s'il allait être à la hauteur du défi que consistait la succession, dans lequel consistait la succession de Moïse. Ce n'était pas une tâche facile de succéder à un homme qui avait été une sorte de géant, entre guillemets, pendant 40 ans à la tête du peuple d'Israël. Quand la Bible dit « ne vous inquiétez pas », c'est parce que nous avons tendance à nous inquiéter. Cette expression, Jésus l'a employée, par exemple, dans son sermon sur la montagne. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit ceci, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ?» Qui de vous peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et la Bible du Sommeur traduit cela de manière un peu plus moderne, peut-être, plus parlante, en disant « Qui de vous, à force d'inquiétude, peut prolonger sa vie, son existence, ne serait-ce que de quelques instants ?» Il est vrai que, si nous voulons être objectifs, l'inquiétude ne peut pas rallonger notre vie. J'irais même jusqu'à dire que, dans certains cas, les gens qui s'inquiètent toujours pourraient même risquer de raccourcir leur vie. Tout le monde sait aujourd'hui que, quand on a certaines maladies, il vaut mieux essayer de garder un esprit serein, positif, malgré tout, car le contraire pourrait être un facteur aggravant pour la maladie que l'on a. L'inquiétude, donc, ne rallonge pas la vie. Donc à quoi sert-elle? Jésus va plus loin en disant toujours dans Matthieu que les inquiétudes, c'est le propre des non-croyants. Dans les anciennes traductions de la Bible en français, il parle des païens. Aujourd'hui, on emploie plutôt le mot non-croyant, parce que le mot païen a pris une tournure assez péjorative. Donc Jésus dit, toutes ces choses, qu'est-ce que nous allons manger? De quoi allons-nous nous vêtir? Toutes ces inquiétudes relatives aux besoins légitimes de la vie quotidienne, Jésus dit ces choses sont l'objet de l'inquiétude pour les non-croyants. Mais il dit à ses disciples, « Mais vous avez un Père céleste, vous avez un Père dans les cieux, et ce Père qui est Dieu prend soin de vous et il veut pourvoir à tous vos besoins. » Il est remarquable de voir que dans l'évangile de Matthieu, et en particulier, dans le sermon sur la montagne, Jésus, quand il parle de Dieu, parle toujours du Père céleste. Pas seulement du sien, mais il dit souvent « votre Père céleste ». Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Et ici, la chose est importante pour nous en tant que chrétiens, parce que si nous nous inquiétons, tout en disant que nous sommes des enfants de Dieu, cela laisse entendre que nous avons un Père qui ne s'occupe pas bien de nous. Quel est l'enfant qui a un Père normal qui va dire « Moi, je m'inquiète parce que je ne sais pas si je vais manger demain. Je ne sais pas si demain je vais avoir de quoi m'habiller. Je ne sais pas si tel besoin que j'ai va être pourvu demain. » Quel enfant dit cela s'il a un Père qui l'aime et qui prend soin de lui? Et c'est ce que Jésus veut dire ici. Vous avez dans le ciel un Père céleste qui est Dieu. Dieu est votre Père, il veut être votre Père s'il ne l'est pas encore, et il veut s'occuper de vous. Donc vous pouvez avoir confiance en lui. Alors l'apôtre Paul traduit cela au verset 6 en disant « Ne vous inquiétez de rien, mais » sous-entendu « au cas où vous seriez tenté de vous inquiéter. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Donc il n'est pas interdit de supplier Dieu. Il n'est pas interdit de prier Dieu et de lui exprimer notre besoin. Mais il ajoute « avec des actions de grâce ». Des actions de grâce, c'est-à-dire avec des remerciements, je traduirai cela en français moderne, avec des remerciements anticipés, comme lorsqu'on présente une requête à une administration, et on peut dire en vous remerciant à l'avance. Ça se fait cela, normalement, quand on veut être poli. Eh bien, l'apôtre Paul dit, vous êtes inquiets, ok, parlez-en tout de suite à Dieu. Et vous pouvez insister, d'ailleurs Jésus l'a dit dans un autre texte, que nous devions insister. Mais faites-le avec des actions de grâce, c'est-à-dire en remerciant déjà Dieu à l'avance pour ce qu'il va faire pour vous, parce qu'il est votre Père céleste. Parce que si vous le remerciez à l'avance, cela exprime la foi que vous avez en Dieu. Et la foi est importante, parce que notre relation avec Dieu est fondée sur la foi. Enfin, dernier point, avant de prendre le dernier point, je tiens à ajouter quand même que Paul dit « Si nous faisons cela, si lorsque nous sommes tentés d'être inquiets, nous faisons connaître à Dieu nos besoins, mais nous, en le remerciant à l'avance pour ce qu'il va faire, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. » C'est-à-dire que nous n'aurons pas les yeux fixés sur les soucis ou sur les causes de nos soucis, mais nous garderons les yeux fixés sur Dieu. La paix de Dieu, si nous avons confiance en Dieu, si nous le prions en le remerciant à l'avance parce que nous croyons qu'il va intervenir parce qu'il est notre Père, alors Dieu nous donnera sa paix qui nous permettra d'attendre dans la sérénité ce que Dieu va faire pour nous. Et cela, cette paix gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus, si bien que nos yeux seront fixés sur Jésus, qui lui-même nous a dit de ne pas nous inquiéter, parce que nous avons un Père céleste. Enfin donc, si le Seigneur est proche, Paul dit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite approbation, qui est vertueux et digne de louange, que cela soit l'objet de nos pensées. J'aime bien la traduction de la Bible du Semeur qui traduit ce verset en commençant ainsi « Nourrissez vos pensées avec tout ce qui est vrai, noble, juste, qui mérite l'approbation, etc. » Nourrissez vos pensées, parce que nos pensées ne sont pas innocentes. Nous avons des bonnes ou des mauvaises pensées. Un grand empereur romain a dit « La vie d'un homme, elle est ce que la font ses pensées. » C'est-à-dire, la vie d'un être humain, elle est conforme à ce qu'il pense. Si nous avons toujours de mauvaises pensées, nous n'aurons pas une bonne vie. Si nous avons des pensées positives, constructives, notre vie en sera le reflet. Jésus a dit que nous devons nourrir aussi nos pensées. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nos pensées, nous pouvons idéalement les nourrir avec ce qui vient de la parole de Dieu, ce qui est contenu dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, je ne dis pas elle est positive, je dis elle est constructive. Elle va nous permettre de nous structurer en sachant que nous avons un Père au ciel qui veille sur nous, qui a un plan pour nous, qui nous a créés dans un but précis, qui ne nous a pas laissés à l'abandon, comme ont dit certains philosophes, après nous avoir créés. Non, il pense à nous, il nous aime, il veut notre bien. Donc nous pouvons nourrir nos pensées de tout ce que la Bible dit sur Dieu, parce que cette parole est fiable. Elle a été démontrée par l'expérience qu'ont faite tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Donc si le Seigneur est proche de nous, est proche dans le temps, profitons-en pour nourrir nos pensées, afin de bien l'attendre et de porter du fruit pour sa gloire en attendant son retour. Que son nom soit béni, qu'il nous bénisse tous. Amen.